Ravi de vous retrouver. On est aujourd'hui en compagnie du metteur en scène Jean-Romain Vesperini, qui est avec nous dans probablement le plus bel endroit d'Italie. Bonjour, Jean-Romain.
Bonjour, bienvenue dans les jardins Boboli du Palazzo Pitti.
Alors, ça a l'air luxuriant comme ça, mais il faut qu'on explique notre réalité journalistique. On est dans votre bureau, et votre bureau est peut-être l'endroit le moins charmant d'Italie.
Ah, c'est sûr, c'est un container absolument d'un gris le plus neutre possible. Mais enfin, j'ai la clim, donc c'est le plus important finalement.
Alors, un nouveau festival qui s'est lancé en Italie et qui a voulu conjurer le sort du Covid et puis surtout avoir lieu. Vous vous retrouvez impliqué dans cette folle aventure et vous allez monter ici Cenerentola, non pas au festival de Pesaro dont on revient, mais dans les jardins de Boboli. Alors, ce qui est assez formidable, c'est que l'opéra est un peu né ici, dans la Galerie Blanche, c'était de l'autre côté du Palazzo Pitti, donc il reprend ses droits. Mais comment avez-vous fait pour vous retrouver ici?
Alors à la base, le festival avait lieu dans un jardin privé au Palazzo Corsini. Donc c'était une aventure assez incroyable déjà à la base, puisque c'était un jardin privé et Giorgiana Corsini a accueilli ces trois Anglais qui ont décidé de monter un festival en se concentrant sur la mise en valeur des jeunes talents, des jeunes chanteurs. Et avec le Covid, eh bien, c'était plus possible de le faire là-bas. Et Heike Schmidt, le directeur des offices de Florence, a proposé d'accueillir le festival dans un jardin qui est évidemment assez grand pour accueillir du public. Et donc, nous nous retrouvons ici, dans ce jardin absolument extraordinaire, recevoir tous les soirs 500 personnes, bon, sur une estrade qui en contiendrait 3200, mais bon, voilà.
L'estrade, pour l'avoir vue, elle fait plus ou moins la taille de l'estrade de la Roque d'Enterron, donc c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à y mettre une foule colossale. Il y a 500 places. Alors comment ça se passe en termes de vente, pour parler franchement? Est-ce que le public a peur de revenir au théâtre?
Alors déjà, faut savoir que les places ont été mises en ligne le 17 août à minuit et à 10h, il n'y avait plus de place pour les quatre soirées. Et là, il y a un grand souci, c'est qu'ils sont victimes de leur succès, on va dire, puisque on ne peut pas rajouter de place, évidemment. On ne peut pas rajouter de représentation non plus. Donc là, il y a une équation qui est assez, des dilemmes plus que cornéliens, là.
Alors, vous, en tant qu'artiste, vous êtes un des premiers concernés, et vous le savez très bien. Il y avait d'abord cette angoisse de ne pas savoir quand allait reprendre la vie culturelle, et puis cette autre angoisse de savoir si le public allait revenir. Donc là, déjà, vous avez un signe plutôt positif.
Ah ben, plus que positif, effectivement. Personne ne s'attendait à un tel succès, ça c'est sûr. Bon, ce qui fait plaisir, évidemment. Alors, il faut savoir, on est en plein air, donc c'est sûr qu'on n'est pas dans un endroit qui est confiné. Les règles sont plus que respectées, puisque vous avez vraiment... C'est des sièges business que vous avez, même pôle de première. Donc voilà, maintenant je crois que les gens ont très envie de retourner au théâtre ou à l'opéra et de se divertir et d'oublier un peu cette folie aussi, la maladie.
Vous parlez de l'expérience du lieu par rapport à l'expérience de l'opéra. Être dans un lieu comme les jardins de Boboli pour voir un opéra, c'est ajouter à l'expérience féerique d'aller voir un opéra. Alors comment est-ce que le lieu influence le metteur en scène par rapport à son travail?
Alors il y a eu effectivement deux choses. C'est-à-dire qu'au départ, on devait le faire avant, je veux dire, pré-Covid, on devait le faire à Corsini, donc on avait pensé déjà travailler avec la vidéo, mais avec une base de décor, puisque évidemment vous êtes dans un palais avec un décor derrière, c'est sûr que ça vous fait votre scénographie. Ici, il n'y a rien. Donc on a une estrade comme si on allait faire un concert de rock ou de variété. Et donc il faut tout inventer. En même temps, c'était trop tard pour construire une scénographie complète. Donc on est resté sur le principe de la vidéo. Et on va développer, on a dû évidemment retravailler tous les contenus vidéo et les développer, puisqu'évidemment l'échelle n'est plus la même. On a 20 mètres d'ouverture sur 15 mètres de profondeur. Donc c'est sûr que il faut tout repenser. En même temps, avec la distance Covid, les distances entre le dernier rang et le nez de scène est immense. Donc il faut évidemment pensé à tout ça, mais bon, c'est plutôt prometteur, voilà.
La Cenerentola, elle va chercher ses racines chez Perrault, mais elle repose sur une logique théâtrale goldonienne, donc on peut l'imaginer, effectivement, dans un petit palais, dans quelque chose de l'ordre du petit bonbon, se retrouver tout d'un coup sur une scène aussi gigantesque. Est-ce que ça vous a pas un peu intimidé, dramatiquement parlant ?
Bah non, parce que en fait, c'est-à-dire qu'avec avec la lumière, la vidéo, on peut réduire les espaces. Et j'ai fait en sorte, en termes de scénographie, aussi minimale soit-elle, de finalement réduire, de casser cette. Puisque 20 sur 15, évidemment, ça fait une grosse superficie, mais on a rajouté des modules qui sont tout simplement de la construction de l'échafaudage, mais qui permet de casser cette idée d'énormité de plateau et qui nous permet de faire plusieurs zones de jeu et ramener dans l'intimité.
Alors, quel va être le moteur dramatique de cette Cenerentola-là ?
Comme vous disiez très justement, Perrault, Goldoni, donc ça veut dire que j'ai voulu m'amuser avec les codes baroques, avec les codes du XVIIe. Donc il y a des costumes, par exemple Dandini arrive, sa première entrée, il apparaît en Roi Soleil avec la cuirasse, le casque à plumes, vraiment comme le danseur, Louis XIV en danseur, sur un cheval que j'ai trouvé tout à fait de façon incongrue dans les anciennes écuries du Palazzo Corsini, un cheval en résine. Et la première fois que je suis venu, j'ai dit producteur, j'ai dit ce cheval, je suis tombé amoureux de cet objet, et donc on va l'utiliser. Et donc je l'ai utilisé pour l'entrée de Dandini, donc qui apparaît en Roi Soleil. Et puis pour le côté commedia dell'arte, et après c'est dans la Goldoni, c'est dans la façon d'interpréter les rôles. Alors, c'est surtout vrai pour le rôle de Magnifico. Donc là, c'est un festival qui s'appelle New Generation Festival. Donc c'est vraiment, il met en valeur les jeunes artistes. Et c'est vrai qu'avoir un Magnifico qui a une trentaine d'années, ça peut au départ être un peu perturbant pour un metteur en scène. Je crois que c'est là où a été le plus étonnant, c'est qu'il a fallu trouver, sortir de sa tête Alessandro Corbelli, pour qui j'ai une admiration sans faille, et travailler avec cette basse qui s'appelle Daniel Miroslav, qui a une force comique assez forte, mais et qui n'a pas l'âge tout à fait du rôle. Donc on lui a trouvé dans la comédie de l'art les mimiques qui font que c'est pas tout à fait le Magnifico qu'on a l'habitude de voir, et en même temps on y croit.
Cela dit, à l'époque de Perrault, on pouvait imaginer d'être grand-père dans la trentaine.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que bon, aujourd'hui, il y a un petit décalage, mais voilà, on revient aux sources, à la source.
Il y a chez Perrault une sorte de cruauté, même de sadisme, d'intense noirceur qui a été gommée chez Rossini, aussi chez Disney plus tard. Est-ce qu'on est parfois tenté de revenir à cette noirceur-là ?
Disons que c'est, sur Cenerentola, on a vraiment les deux aspects, opéra seria et opéra bouffe. Donc, sans aller dans la noirceur, mais je parlerai plutôt de suspension. C'est-à-dire que dans l'opéra, il y a ce temps qui est suspendu par moment. Et là, vraiment, on a suivi cet aspect-là. Alors après, la noirceur, je pense que, surtout chez Rossini, faut faire attention parce que. Mais c'est plus de la poésie, de la mélancolie, plus que de la noirceur. Après, évidemment, la noirceur, elle est encore une fois plus chez les filles, chez les sœurs méchantes. Mais c'est plus de l'humour acide, plus que de la vraie noirceur.
Elles ne sont pas gentilles quand même.
Ah non, elles ne sont pas gentilles, mais elles sont assez extra, ces deux-là. On a vraiment un couple, Giorgia Pacci et Marvic Montréal, qui font un travail incroyable.
Alors, on peut terminer là-dessus. Je crois que le plus dur pour un chef d'orchestre, quand il monte un opéra de Rossini, c'est de mettre en place les ensembles qui sont hallucinants. J'imagine en fait que la réalité est la même pour le metteur en scène.
Oui, alors en même temps, c'est... Bon, moi, je porte cette musique. J'ai fait mes premiers assistanats à Pesaro. J'avais 17 ans. C'est une musique que j'ai dans le sang et qui m'a vraiment... qui me suit depuis tout petit. Donc, moi, je suis plutôt à l'aise avec ces ensembles parce que le côté cartoon, le côté comédia, pour moi, c'est quelque chose qui m'est cher et que je sens. Voilà, donc du coup, ça facilite le travail. C'est pas pour moi une difficulté que de les mettre en scène, ces ensembles.
Vous avez négocié de pouvoir repartir avec le cheval en résine?
Non, mais j'espère que je les retrouverai l'année prochaine, pour une autre production peut-être, qui sait.